Bonjour à tous, bonjour. On va donc s'intéresser à la possibilité qui commence à apparaître et qui commence à se développer de fabriquer soi-même son livre numérique et même au-delà de la fabrication, même carrément de le vendre soi-même. On va voir un peu les interactions, les changements que ça peut provoquer, pas seulement d'ailleurs pour les auteurs, mais peut-être aussi pour tous les acteurs de la filière, y compris le lecteur lui-même qui va se retrouver aussi concerné. Pour évoquer ce sujet, on est avec Sylvie Lenné, qui est auteur, mais qui est aussi professeur en sciences de l'information. On va essayer de voir avec elle justement comment tout cela fait évoluer le monde de l'édition et de la lecture. Jean-Claude Duniac, auteur lui aussi, mais réalisateur d'un tutoriel qui permet justement aux auteurs qu'ils souhaitent de aujourd'hui fabriquer leur livre numérique et de le mettre en vente en ligne. Et puis Laurent Kessy, qui est auteur, qui lui aussi a profité de ce tutoriel pour proposer son travail. Et puis on parlera également d'une revue numérique, là aussi pour voir que il n'y a peut-être pas que le livre qui peut être concerné, mais aussi peut-être les autres ramifications, les autres évolutions. Sylvie, je voulais qu'on commence ensemble pour savoir si on parle beaucoup, on entend beaucoup parler d'une révolution numérique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tout ce dont on va parler là maintenant, c'est le début d'une nouvelle ère avec vraiment un changement d'habitude et de consommation, entre guillemets, du livre?
Bon, alors là, c'est une question de prospective. C'est pas parce qu'on est amateur de science-fiction du même auteur qu'on est capable de faire de la bonne prospective. C'est une question sur laquelle il y a énormément d'interrogations. Le bilan qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est d'abord que économiquement, ça n'est pas encore une révolution. Le poids du livre numérique en termes de marché doit représenter en gros à peu près 10% de l'ensemble du marché du livre, et encore, c'est peut-être une évaluation un petit peu surestimée. Donc la révolution, elle va peut-être venir. Ce qui est sûr, c'est que si elle arrive, elle risque de bouleverser complètement la chaîne de production du livre, puisque le thème dont on va parler aujourd'hui pose une question fondamentale: est-ce que les auteurs peuvent produire eux-mêmes leur livre numérique? Si on examine toutes les conséquences de la chose, on sait déjà, Jean-Claude va nous l'expliquer tout à l'heure, que c'est techniquement possible, pas très compliqué, mais si les auteurs produisent eux-mêmes leur livre numérique, que devient la place des éditeurs? Que devient la place des libraires qui achètent des ouvrages numériques, qui vendent des ouvrages numériques? Que deviennent éventuellement les médiateurs, les bibliothécaires qui mettaient à disposition des livres? Voilà, peut-être une redistribution des rôles, et avec tout un tas d'actions qui étaient prises en charge par l'éditeur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éditeur ne se contente pas de sélectionner des manuscrits. Une fois qu'il les a choisis et qu'il en a fait des ouvrages, il les valorise, il les met en visibilité, il les fait connaître. Il impose un label qui inspire la confiance au lecteur, comme est la connexion. Donc voilà, tout ça, on va en parler pendant toute la table ronde. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais ça fait beaucoup de bouleversements.
Mais voilà, ça fait beaucoup de changements d'habitude pour tout le monde sur la totalité de la filière, finalement.
Ça, on pourrait imaginer de très grands bouleversements. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser aussi. C'est pas parce que le livre numérique risque de prendre une place grandissante et de modifier les pratiques de lecture qui va forcément supprimer le livre papier. Moi, je crois beaucoup à la coexistence des deux, et je pense qu'il faut aussi réfléchir en termes de complémentarité entre les deux.
En termes de synergie, employer des grands mots. Est-ce que c'est difficile de fabriquer son livre numérique?
Non, c'est très facile, mais je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Sylvie, parce que je ne suis pas nécessairement tout à fait en accord avec elle. D'abord, pour une raison très simple, c'est que le livre numérique, que Stéphane Marsan l'a rappelé hier, il est déjà là. Il est déjà là, il commence à y avoir un certain nombre d'expériences sur au moins 4 départements français où les élèves partent à l'école avec des tablettes sur lesquelles leurs livres scolaires sont en numérique, donc pour lesquels l'habitude de la lecture numérique commence à l'âge de 10 ans. Et donc cette génération-là, soyons clairs, en même temps, elle lira sur tablette, hein, parce que le livre, pour eux, ne sera pas un objet habituel. Et c'est aussi quelque chose dans lequel on se dit que, comme cela s'est passé pour la musique, comme cela s'est passé pour la photo, le passage au numérique a fait qu'on ne vend plus des livres ou des disques, qui sont des objets, on vend de la lecture. C'est-à-dire qu'on vend un texte qui se déroule sur un écran ou une musique qui se déroule dans un écouteur. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne vend pas un objet physique. Ce changement-là, il est fondamental. Ça veut dire qu'on vend des objets qui voyagent pratiquement pour rien, qui sont dupliqués quasiment instantanément, et là aussi pour rien, et qui existent dans un nombre d'exemplaires qui est à peu près infini, et qui sont attaquables aussi, on va le voir, par tous les bouts. Donc ça, ce ne sont plus des objets matériels, ce ne sont plus des objets stockés, existants en petit nombre dans un état donné du monde, ce sont des potentialités de virtualité pratiquement infinies à notre échelle, à nous humaine. Donc ça, ça fait une différence. Alors maintenant que tu poses la question de savoir comment on transforme un livre numérique, eh ben, je vais te répondre en 10 secondes, puis on va plus en parler. Il y a un tutoriel sur mon site qui fait qu'à partir d'un fichier de traitement de texte de type Word ou autre, vous fabriquez votre fichier numérique de bonne qualité en quelques minutes et vous le mettez sur un site de vente de type Amazon, Lulu ou Apple en quelques minutes aussi. La question c'est, faut-il le faire et à quoi ça sert ? Et là, Sylvie a parfaitement raison de souligner une chose. D'abord qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un éditeur qui, un, transforme le livre en le rendant meilleur et deux, le légitimise. Un livre édité, un livre qui a l'estampille Gallimard, Bragelonne, etc., c'est un livre dans lequel une structure éditoriale a mis un tampon qualité qui dit « Moi, éditeur de Gallimard, de l'OL, Bragelonne, vous, qui vous voulez, je crois en ce livre, je l'ai amené jusqu'à un niveau de qualité suffisant et vous ne perdrez pas votre temps à le lire, du moins je le pense. » Or ça, c'est 1% des manuscrits. 99% des manuscrits ne sont pas dans cet état-là. Or ces 99% des manuscrits, ils peuvent parfaitement se retrouver sur Amazon aussi, en suivant le tutoriel. Faut-il qu'ils y soient ? Je n'en sais rien, c'est une vraie question. Mais en tout cas, l'un des problèmes qui nous menace, c'est que tous les gens qui ont des manuscrits dans le tiroir refusés par tous les éditeurs de France, de Navarre et de Monaco, peuvent le mettre sur Amazon en quelques instants aussi, et le font. Et ça vous donne des trucs, j'en ai essayé deux ou trois, c'est vraiment à tomber par terre. Ça, c'est un risque. Il y a une deuxième chose aussi que fait l'éditeur, qui est une chose extrêmement importante, il valorise le livre, il le place, il fait de la publicité, il construit autour du livre tout ce qu'on appelle un paratexte. Ça va du quatrième de couverture à l'affiche de publicité, à l'affiche qu'on envoie aux journalistes, à l'affiche diffuseur, etc., qui permet au livre de, je dirais, d'être fourni avec une enveloppe lui permettant d'accrocher ses lecteurs. Cette enveloppe, on appelle ça les métadonnées, en notre terme technique. C'est tout ce qui est autour du livre. Ça va de son prix, de son quatrième de couverture, des indications de langue, des mots-clés pour le retrouver, etc. Sachant que le numérique et que les librairies numériques comme Amazon permettent une souplesse que les librairies ne peuvent pas. Un livre est classé à un seul endroit dans une librairie physique, à un seul rayon d'une bibliothèque. Chez Amazon, vous pouvez y accéder par 15, 20, 30, 50, 2000 chemins différents. Le même livre peut attirer les gens qui s'intéressent à la pêche sous-marine, qui s'intéressent au polar, qui ont envie de visiter Bangkok parce que le bouquin se passe à Bangkok, qui s'intéressent à tous les bouquins dont le héros s'appelle Georges, et qui veulent des textes qui sont moins de 200 pages. Vous arrivez à ce genre de chemin parce que les gens font une demande en disant « Est-ce qu'il y a des textes qui se passent à Bangkok ?» et on leur sort celui-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'il est classé normalement dans SF, et que donc c'est les gens qui diraient « Je lis jamais de SF, donc j'irai pas à ce rayon-là. » Mais le mot-clé « Bangkok » figurant dans le livre, eh bien Amazon vous renverra ce texte-là. Donc vous avez un rapport au livre qui est complètement différent. Mon problème n'est pas seulement de transformer un fichier en livre numérique, ça c'est facile, c'est à partir de là, tout reste à faire. Et ça, Sylvie vous en parlera mieux bien.
Et peut-être même Laurent aussi d'ailleurs, on va peut-être lui demander son avis justement. Vous qui avez l'expérience justement de ce projet, est-ce que vous avez aussi respecté ces étapes-là de retravailler avant la publication finalement ?
Non, alors moi j'ai mis en ligne un roman qui avait déjà été publié par un éditeur en 2006 et qui n'est plus disponible et donc j'avais les droits numériques, puisqu'à l'époque en 2006 on ne faisait pas de contrat pour des éditions numériques. Là je sors un recueil chez QSF. Qui sort en même temps en numérique, mais qui est publié par l'éditeur lui-même. Voilà, donc j'ai suivi le tutoriel de Jean-Claude pour sortir le roman, voilà, qui avait déjà été travaillé par un éditeur, qui avait une couverture.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une structure autour de vous déjà existante, voilà, qui n'est pas remise en cause par la personne numérique. Voilà,
après, je voudrais revenir sur la question que posait Sylvie, qui à mon avis ne se pose pas, est-ce que les livres numériques vont remplacer le livre papier ? Non, enfin, je
elle
vois
se pose pas,
pas,
mais elle a été posée.
Je sais, mais je sais, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on la pose.
Y compris par des figures médiatiques.
Je sais, et c'est un peu regrettable de poser cette question. Non, le MP3 n'a pas remplacé le CD, on rachète plus de vinyle. L'analogie est peut-être foireuse, mais l'objet physique restera acheté. Après, différemment, évidemment, je pense, mais je crois que dans le numérique, alors je vais parler d'un projet que j'ai lancé, avec des amis qui s'appellent Angle Mort, qui est une revue numérique qui n'a pas d'équivalent, qui est sans doute la première revue de genre en France.
100% numérique.
100%
numérique.
Voilà, 100% numérique. Et le modèle est très différent d'une revue papier, c'est-à-dire que les nouvelles sont accessibles gratuitement, avec des laps de temps différents, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines, une nouvelle est publiée. Et en revanche, on peut acheter le numéro entier de la revue, donc les 4 nouvelles du numéro, plus des bonus, c'est-à-dire des interviews, qui s'avèrent souvent assez intéressantes. Jean-Claude pourra en parler, parce qu'on a fait une bonne interview. Et pour une somme modique, je crois que c'est 3 euros.
2,99 €.
Je ne l'achète pas, donc je ne sais pas le prix. Et donc, voilà, on peut avoir la revue accessible tout de suite pour 3 euros avec les bonus. Et je pense que ce système de bonus, ce système d'immédiateté, il faut faire des choses différentes en numérique et vice-versa. Je pense que pour garder l'intérêt d'un livre, on va se diriger sans doute vers des tirages moins élevés, mais avec peut-être des plus beaux papiers, peut-être des bonus que le numérique ne permettra pas. Voilà, je pense que les deux modes de publication vont être obligés de changer l'un et l'autre.
Voilà. Attends, tu poses une remarque, si je peux me permettre, une remarque, tu dis, est-ce que le livre papier va disparaître suite au livre numérique ? Faut quand même pas oublier qu'il y a d'abord un certain nombre d'exemples où les 45 tours et 33 tours ont disparu suite à l'arrivée des CD, et les CD sont en train de disparaître suite à l'arrivée des MP3. Et quand je dis qu'ils sont en train de disparaître, c'est que justement tous les signaux d'alarme sont tirés au niveau américain ou même européen sur la vente des objets physiques. Et en ce qui concerne les livres, c'est encore pire, il y a un problème de place. On a tendance à l'oublier, c'est que les appartements des gens sont de plus en plus petits, et dans les appartements, la zone de rayonnage est de plus en plus petite. Donc les gens ont de moins en moins la possibilité de stocker des livres.
Il y a de plus en plus de fenêtres aussi. On ne peut pas mettre de bibliothèque dans les fenêtres.
On ne peut pas mettre de bibliothèque. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on a ça. Et c'est vrai qu'il n'empêche qu'il y a encore des gens qui fabriquent du vinyle. Il y a encore des gens qui font du pressage de galettes vinyle. Mais vous n'en avez plus dans les supermarchés. Vous allez être obligé d'aller dans des magasins spécialisés. De la même façon que le tirage papier argentique a pratiquement disparu au profit du tirage numérique, qui d'ailleurs n'est même pas souvent sorti sur papier, qui est quelquefois sorti sur écran, ou qui fait l'objet de petits livres.
Mais là, on est dans le domaine de passionnés qui conservent un secteur, finalement, comme un collectionneur de voitures anciennes.
Que les passionnés conservent un secteur, on est tout à fait d'accord, mais que l'objet physique livre, qui est un objet terriblement courant, il y en a partout des livres, que dans 30 ans, on me dise qu'il y en aura autant, j'ai tendance à ne pas le croire.
Ah non, Sylvie.
Oui, alors moi, j'ai envie de dire tout de suite que c'est pour ça que la question est très compliquée, c'est qu'il faut se méfier des considérations rapides sur le lectorat, et que c'est pas étonnant que dans le cadre où on est ici, on pense tout de suite aux 13 gros lecteurs qui ont des milliers d'ouvrages dans leur bibliothèque, mais je crois que quand on parle des lecteurs en général, ils n'ont pas tous des milliers et des milliers d'ouvrages dans leur bibliothèque, et ça ne se pose pas toujours en termes de stockage ou de place ou de rayonnage dans les bibliothèques. Donc, il y a quand même une majorité de lecteurs en France. Je n'ai plus les chiffres très précis en tête, mais ils sont publiés par le Syndicat National de l'Édition ou d'autres structures.
Je crois que la moyenne, c'est autour de 12 livres lus par an.
On est à peu près à une dizaine de livres par an,
mais en moyenne,
60% des lecteurs.
Voilà, ce qui veut dire que pour un très gros lecteur, il y a combien de gens qui ne lisent jamais, finalement ? Très peu, ou qui vont lire un livre par an ?
Il y a beaucoup plus de gens qui ne lisent qu'un livre par an que de gens qui en lisent plus de 50 par an. Et maintenant, c'est évident que les enfants, de plus en plus, vont en avoir des tablettes. Nous tous ici, je pense que nous sommes très nombreux à lire sur écran avec des outils variés. Mais je crois que les enseignants, d'abord, ont besoin de matériel et ne seront probablement pas satisfaits de me faire manipuler, surtout à jeunes enfants, que des écrans, même s'ils sont actifs. Le rapport au monde, ça se construit quand même aussi par des objets physiques. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Comme je crois qu'on ne fait pas les mêmes apprentissages du rapport à l'espace en manipulant des objets 3D ou en jouant avec un mécano, c'est pas les mêmes processus. Que les objets virtuels dont on parle ici, je ne sais pas si tout le monde le ressent comme moi. Bon, j'ai une certaine culture informatique. N'empêche que quand j'achète un livre numérique, je suis extrêmement consciente du fait que je ne sais pas du tout s'il sera encore dans une bibliothèque numérique accessible par ma technologie personnelle dans 4 ou 5 ans. C'est un petit peu angoissant, alors que quand on achète un bouquin, on l'a toute sa vie. Et non seulement on l'a toute sa vie, mais on pourra le prêter à tous les copains à qui on aura envie de le prêter. On n'a pas encore atteint cette souplesse des objets virtuels.
Moi, je vois de là de ça, je trouve que l'exemple de Jean-Claude, au contraire, est excellent par rapport à la question du vinyle ou de la photographie argentique numérique. Pour avoir discuté avec des clubs photo, justement, qui continuent plutôt à travailler sur l'argentique par rapport au numérique, ils disent aussi que il y a un attachement sensuel, il y a le fait d'avoir ses bassins, d'avoir les produits, d'avoir les odeurs, d'avoir donc les sens en éveil. Est-ce que finalement aussi la limite du livre numérique, c'est pas ça par rapport au livre traditionnel, dont on touche les pages, dont on ressent l'odeur, dont on...
On est tous en train de parler d'une phase très particulière que j'ai connue en tant que musicien, en tant que photographe, en tant qu'écrivain, qui est celle du passage d'une forme de lecture à une autre, d'un support de artistique à un autre, etc. Ce passage-là, nous sommes en train de le vivre. Mais il n'existera plus, ce passage, dans 10 ans. Il n'existera plus parce que les gens que nous sommes, qui avons lu des centaines de milliers de livres, etc., ne seront plus là, ou ne seront plus, je dirais, directement aux commandes, ou directement en train de raconter nos choses, et ce sera une nouvelle génération de gens qui arriveront, qui auront lu sur leur téléphone, qui auront lu sur leur tablette, qui auront lu sur leur machin scolaire, et que leur rapport à ce que nous disons sur la sensorialité des bacs, etc., etc., des bacs de produits, ou du vinyle qui craque sous le bras, ça, c'est quelque chose qui n'existera pas. Pour mes filles...
On n'en sait rien, Jean-Claude, je te trouve très affirmatif. Mais tu es en train de faire de la prospective, c'est un exercice délicat.
Je suis en train de faire de la prospective, je suis probablement certainement affirmatif, mais je le vois par rapport aux adolescents que je connais. Par exemple, une chose est certaine, les adolescents que je connais, et j'en connais beaucoup, ne savent pas ce que c'est qu'un vinyle. Ils n'ont simplement jamais vu, ils n'ont jamais senti le craquement du vinyle qu'on dépose et le fait qu'on repose le bras, ce qui est un geste sensuel, qui est un geste formidable, qui est important pour nous, dont on s'imaginait à quel point il nous accompagnerait toute notre vie. Pour eux, ça n'existe pas. Je dirais même que la notion de CD, qu'on rentre quelque part parce qu'on n'a que les morceaux à cet endroit-là, ils ont un iPhone ou un quelconque MP3 qui comporte 3000, 4000, 5000 morceaux. Donc le petit CD avec 12 morceaux, ils ne connaissent pas.
Il y a même des choses amusantes. Moi qui ai fait de la radio, j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans une radio où il y avait encore des vinyles. Mmh. Et ce qui est très amusant quand on est l'animateur, c'est de caler un vinyle. Mmh. Ce qui n'est plus le cas avec même déjà un CD, ce qui l'est encore moins avec un MP3.
Ben, je travaille avec des gens qui font du hip-hop, par exemple, qui donc sont censés utiliser des vinyles pour faire du scratch, et qui depuis longtemps utilisent des scratchs numériques, parce que vraiment, le vinyle, ils en ont marre. Et alors, ils font du scratch numérique, parce que pour des raisons historiques, ça va faire zip, zip, mais à la limite, ils savent pas d'où ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que... Alors, il est évident qu'il restera des gens qui seront élevés dans ce milieu-là, il restera des gens qui seront attachés au papier, attachés à l'argentique et aux deux bains et à la lumière rouge qui va bien, mais je dirais qu'ils vont tomber, à mon avis, je fais de la prospective, je m'engage, en dessous d'une espèce de seuil qui font que ça restera, je dirais, un tout petit club spécialisé de gens nostalgiques, comme les gens qui actuellement se retrouvent pour faire des runs de deux chevaux. Bon, il y en a, hein, il faut savoir, la deux chevaux n'a pas disparu, il y a des clubs d'amateurs de deux chevaux, mais le moins qu'on puisse dire, c'est quand on se balade dans la rue, c'est pas ce qu'on voit le plus, vous voyez ce que je veux dire. On aura ce basculement-là.
Ça veut dire qu'il faut que je troque les dizaines de livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je les récupère, comme j'ai récupéré des vieux albums qui étaient en vinyle, il a fallu que je les récupère en CD pour pouvoir les réécouter.
Tu n'es obligé de rien. Le livre, comme l'a fait remarquer Sylvie, existe et il restera jusqu'à ce qu'on le détruise ou qu'on cesse de le lire. Il est là. Simplement, il sera petit à petit et plus rapidement qu'on le croit remplacé par un objet qui permet la lecture à n'importe quel moment, sur des supports variés, avec une instantanéité que les gens aiment bien avoir, je m'aperçois que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent ce que j'apprécie, c'est à la limite d'avoir une espèce de sélection dans mon téléphone en disant tiens, je vais lire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, de quoi j'ai envie, et je l'ai à ma disposition. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est petit en train de se produire. Bon. Mais le livre physique, il reste toujours là, enfin, il est toujours valable, au contraire, il aura une durée de vie peut-être plus importante que ton fichier, hein. Ça c'est clair. Donc ne fais pas l'histoire de troc.
Laurent.
Oui, non, j'ai l'impression que c'est un débat. Voilà,
c'est une querelle des anciens et des modernes.
Non, même pas. C'est juste la nostalgie quand on parle de la sensualité du livre. Ok, très bien. Mais ma fille, elle aura la sensualité peut-être d'allumer sa liseuse et pour elle, ça sera ça. Quand il n'y aura plus de liseuse et que ça sera remplacé par autre chose, elle se lamentera sur oh là là, les liseuses c'était formidable.
Mais pour un auteur, alors. C'est peut-être là encore, je suis peut-être dans le cliché, mais un jeune auteur qui commence, qui le jour où il reçoit le premier exemplaire de son premier livre publié, qu'il l'a dans les mains, c'est quand même un geste, c'est comme une réception différente que de se retrouver avec une clé USB.
Je sais pas, c'est le même problème que autrefois on écrivait sur des machines à écrire, on avait des manuscrits voilà, directement, maintenant on écrit sur écran et avant même privé. Je sais pas, oui, ça fait quelque chose.
Ça peut être très sensuel d'enfoncer une clé USB dans un port, je sais pas, et de sentir la manière dont ça s'enfonce doucement avec une petite clignotante, jusqu'au moment donné où on atteint l'ouverture du truc. Je sais pas, moi je peux en faire une poésie.
Oui, mais non, mais c'est des questions qui se posent.
Il y a eu un dessin qui a circulé sur Facebook que je vous recommande, qui est très très drôle, où il y a deux personnes qui sont en train de lire. L'un lit sur une liseuse, et le second est dans un fauteuil, il a des écouteurs. Et le premier lui dit, ouais, moi je ne suis pas encore passé au livre audio parce qu'il me manque le toucher du doigt sur les liseuses.
Mais c'est très énervant de voir des gens lire sur une liseuse et de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de lire.
Ah oui, ça c'est un autre problème.
Là on parle de nos habitudes à nous quotidiennes. Ce qui peut aussi changer, ça va être, on l'a déjà dit, hein, c'est toute la filière finalement. On a évoqué l'éditeur, on peut imaginer quand même que l'éditeur conserve le travail en amont, avant la publication numérique, parce que il y aura toujours des auteurs qui auront besoin de travailler, de retravailler les textes.
Non. Pour être un auteur, il faut qu'un éditeur t'ait adoubé. C'est-à-dire que le rôle de l'éditeur, c'est celui qui différencie l'auteur, le gars qui a fait un livre adoubé, de celui qui a juste écrit un texte. Ce rôle-là, il est fondateur.
Sauf que toi, tu proposes quelque chose qui permet, entre guillemets, à n'importe qui de publier, entre guillemets, n'importe quoi.
Oui, mais je ne fais pas de ce qu'ils font de vrais livres au sens éditorial du terme. Je fournis des textes lisibles dans un format différent.
C'est différent. C'est fondamental. Hein,
et à mon avis, c'est là que la vraie question commence à se poser.
Mais
la vraie question, c'est pas la question de l'auteur. La vraie question, c'est nous lecteurs, comment allons-nous faire pour trouver les livres qui seraient susceptibles de nous plaire?
Parce qu'on galère déjà avec 700 livres qui sortent à une rentrée littéraire.
Mais on a quand même des tas de points de repère à l'heure actuelle, dont le principal est sans doute la notion de collection. Quand on achète un livre de la Talente, quand on achète un livre de griffes d'encre, on a quand même une idée d'une ligne éditoriale, d'un groupe d'auteurs, d'un niveau de qualité, d'un certain type d'exigence. Oui, c'est tout le travail de l'éditeur. Mais puisqu'on parlait de métadonnées qui pourraient peut-être, d'un certain point de vue, donner des points de repère au lecteur au moment où il voudrait acheter un bouquin, mais moi, personnellement, vu l'état actuel de ce que sont les métadonnées, je ne pense pas que j'aurais envie de choisir un livre sur le critère... ça se passe à Majorque, il y a des baleines dedans, et puis il y a des chapeaux pointus. Moi, ce que je veux, c'est un bon livre susceptible de me plaire, au sens où il est bien écrit, il a une dimension intellectuelle, poétique, scientifique, je ne sais pas quoi, mais pas quelque chose que je peux raconter avec des étiquettes qui disent ça parle de ça ou de ça. Ce qui est important pour moi en tant que lecteur, c'est pas de quoi ça parle, c'est la manière dont ça en parle. À la limite, ça peut bien parler de n'importe quoi, du moment que c'est intéressant. Mais après, il faut déléguer à quelqu'un le prêterie. Et habituellement, on le délègue à l'éditeur. Je ne suis pas sûre, à chaque fois que j'achète un bouquin dans une collection qui d'habitude m'intéresse, que le bouquin va me plaire pour autant. Mais j'ai 10 fois plus de chances que ça me plaise que si j'allais piocher au hasard dans une bibliothèque. Quand on va avoir, et ça va arriver très vite, des plateformes sur lesquelles on va avoir des milliers de titres. Alors moi déjà, quand je vais sur Amazon, je suis terrifiée parce que on navigue dans Amazon page par page, on a des trucs pour lesquels il n'y a absolument aucun point de repère en termes de qualité. Et d'autre part, je ne suis pas prête à déléguer ma confiance imprétrice sur la qualité des ouvrages à n'importe qui. Je suis désolée, je ne veux pas avoir l'air d'une élitiste sauvage, mais ce n'est pas parce que 400 personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et donc sur à propos desquelles je n'ai aucune idée auront cliqué pour dire c'est super que je vais forcément trouver ça génial. Je ne les connais pas, ces 400 personnes, ils ne résident peut-être pas comme moi. On est en train, avec Internet, et ce n'est pas seulement un problème lié à l'édition, de remplacer des appréciations que l'on confiait à des personnalités qui avaient des qualités, des compétences, et dont le jugement intellectuel avait été légitimé par des gens qu'ils trouvaient intéressants. On est en train de remplacer ça par des indicateurs d'audience, des hit-parades, et c'est comme si on ne concevait plus les chaînes de télévision qu'en fonction de l'indicateur d'audience. Et je suis désolée, mais comme ça, il n'y aurait plus de TF1
sur l'indicateur d'audience. Le bouche à oreille, ça a toujours existé quand même.
Oui, mais le bouche à oreille, il ne se passera sans doute pas sur les plateformes lui-même, il se passera à côté. Et après, la question, c'est qui va faire le boulot d'alimenter le bouche à oreille et de lui donner du grain à moudre, parce qu'il faut bien que ça démarre quelque part. Et c'était les éditeurs qui le faisaient jusqu'à maintenant en grande partie. On demande aux auteurs de s'investir de plus en plus, de tenir des blogs, de mettre de frais des sites. Est-ce que c'est vraiment le boulot de l'auteur? Il y en a qui seront ravis de le faire, il y en a qui n'ont pas le temps ou pas envie. Mais les livres n'auront un peu de visibilité que si quelqu'un, quelque part, fait ce travail.
Laurent.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analogie. Les best-sellers fonctionnent exactement sur le même principe. La liste des best-sellers, c'est ça, quoi. Les gens achètent ce que les autres personnes ont acheté et c'est pas forcément de la qualité, quoi. Il y a souvent, voilà, Marc Lévy.
C'est les éditeurs qui ont investi.
D'accord. Après, sur Amazon, je pense pas qu'Amazon il faille s'en servir comme ça. C'est pas un catalogue dans lequel on se promène. C'est pas une librairie, quoi. Alors, il y a des systèmes de recommandation. J'ai l'impression qu'il y a un autre système de découverte d'auteurs qui se met en place. Internet est vaste. Il n'y a pas que les librairies qui proposent de choisir des livres. Il y a des forums Internet. Selon, tu vois, tu disais les critiques, les gens, les prescripteurs à qui tu peux faire confiance, tu peux les trouver sur des forums de genre qui t'intéressent par exemple, et tu vas vite savoir que telle personne aime le même genre de bouquin que toi et qu'il est de confiance, même s'il n'est pas critique littéraire au monde ou je ne sais quoi. Il y a d'autres façons, il y a des auteurs ont des blogs qui permettent de voir ce qu'ils font, de lier à d'autres auteurs, il y a des mouvements. Tout le système le marché du livre est en train de changer et ça part de l'auteur. Je pense que tout est différent et Amazon n'est pas, on peut pas comparer ça à une librairie dans laquelle on va flâner et peut-être trouver des livres ou être conseillé par un libraire en qui on a confiance. Voilà. Amazon, faut surtout pas suivre les recommandations. Souvent les recommandations d'ailleurs d'Amazon, on les a déjà les bouquins. Donc c'est bien fait, mais on les a déjà.
Pour rebondir un peu sur ce que dit Sylvie, il y a une couverture sur un livre numérique parce que on sait aujourd'hui par certaines études, en particulier pour les genres de l'imaginaire, que la couverture joue un très grand rôle dans la manière dont les lecteurs choisissent un livre.
Je suis tout à fait d'accord. C'est un des éléments prescripteurs de la couverture, c'est clair. La couverture est le quatrième de couverture, c'est-à-dire le petit texte de présentation qui, d'ailleurs en numérique, peut être plus long que le texte sur un livre. Le texte sur livre est limité tout simplement par la taille de la quatrième couverture, alors qu'en numérique, vous pouvez avoir une page sans problème. Oui, il y a des couvertures, il y a une belle image, et quand on fabrique son livre numérique, il y a toute une partie du tutoriel que j'ai fait qui est consacrée à quelle image, comment on la crée, comment on la fait. C'est vraiment un truc à pas louper. Alors si vous avez un livre déjà publié, vous avez la possibilité de récupérer l'image. Moi j'ai la chance de travailler avec un illustrateur qui s'appelle Gilles Francescano, qui m'a refourni les illustrations d'origine, donc j'ai refait la mise en page, ça c'est pas difficile. Donc j'ai vraiment les couvertures, j'ai vraiment des belles couvertures d'illustrations qui vont bien. Mais c'est quelque chose d'important. Un livre numérique, en plus, ça peut être un livre illustré. Ça peut être un livre qui comporte des chansons, qui comporte des films, qui comporte des extraits, qui comporte des trucs en plus. Ce n'est pas, ça aussi c'est quelque chose qui est en train de se produire, ce n'est pas nécessairement un objet séquentiel uniquement constitué de texte. Ça peut être quelque chose de plus varié, avec de temps en temps des raccourcis, avec des déviations, avec des endroits où on peut aller regarder sur le côté si ça nous intéresse un peu. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel on a envie de jouer. Et c'est aussi quelque chose qui risque, si c'est bien exploité, d'entraîner un nouveau rapport à la lecture. C'est-à-dire où la lecture ne sera pas une lecture de... Parce que pour l'instant, la lecture numérique, c'est une lecture de type parchemin. On déroule un scroll, vous voyez, on lit dans un ordre. Là, on aura quelque chose qui sera peut-être un élément mouvant, dans lequel, à côté de ça, on ira prendre un peu de ça, dans lequel, suivant qu'on sera passé par là ou par là, le texte ira vers là ou vers là. Et il y a des choses, par exemple, où on joue avec des histoires de livres dont vous êtes le héros, de livres à plusieurs cheminements, de livres qui se réécrivent.
Ça veut dire qu'on peut, par exemple, en cliquant sur le nom d'un personnage, on pourrait avoir sa bio.
Par exemple, mais tu peux avoir plein de choses. Tu peux aussi avoir des livres dans lesquels, pendant la nuit, le livre va se réécrire en partie et donc t'obligera à, en quelque sorte, à
recommencer à zéro
ta mémoire. Non, mais c'est vrai, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a des gens qui travaillent là-dedans et c'est assez phénoménal.
C'est gore, c'est terrifiant.
Ouais. Non, mais attends, c'est quelque chose que l'auteur a prévu. Simplement, il est tout à fait possible aussi à un moment donné de fabriquer son livre un peu à la demande avec un certain nombre de critères. Et Sylvie a raison sur un point qui est absolument fondamental. Il n'existe pas de métadonnées qui disent « ce livre est bon ». Ce livre est bon ou pas bon, ce livre est intéressant ou pas intéressant. D'abord, c'est une chose qui est profondément intime et personnelle. On n'est pas sûr que ce qui est intéressant pour moi soit intéressant pour vous et vice-versa. Mais surtout, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de critères de mesure. D'accord ? Par contre, il existe tout un tas d'autres critères de mesure qui paraissent totalement idiots, mais qui en fait servent dans le cadre du livre numérique. Je vais vous donner un exemple tout bête. La quantité de sexualité d'un texte peut être parfaitement vérifiée par des processus automatiques. Qui ne vont pas se tromper dans 99,99% des cas. Ben, ça veut dire que si vous êtes un chrétien fondamentaliste qui n'avait surtout pas envie que votre enfant lise un truc dans lequel il y a une fille qui se déshabille ou un gars qui montre ses fesses, vous pouvez demander à ce que les livres soient triés de cette façon. C'est con quand même, allez. Vous pouvez avoir ça. Mais ça existe. C'est mis en place.
Est-ce qu'on peut faire le contraire ?
Oui, mais c'est toi qui choisis ton truc. Mais l'État du Texas a mis ça en place, par exemple.
Big Brother.
Je ne dis pas que c'est possible. Je dis que c'est en train d'être mis en place. Oui. Donc vous avez tout un tas de choses qui font que...
C'est la censure numérique, ça s'appelle.
Non, ce n'est pas de la censure, c'est du choix. D'accord ?
Ça revient à ça.
Est-ce que vous imaginez qu'on puisse dire... Quand on se dit « qu'est-ce que j'ai envie de lire ?», on peut avoir envie de lire « tiens, j'ai envie d'un livre qui finisse bien ». Ça peut paraître idiot, mais j'ai envie d'un livre qui finit bien. Un livre qui va me mettre de bonne humeur, parce qu'à la fin, le héros, malgré de nombreuses vicissitudes et des problèmes sans nombre, va s'en tirer, casser la gueule à tous les méchants, et finir avec la princesse ou le prince, suivant la personne que vous êtes. Eh bien ça, ça peut être une métadonnée. Et je dirais même que ça va probablement être une métadonnée. Vous voyez ? Simplement pour dire « j'ai envie que ça se passe bien ».
Sylvie.
Oui, je trouve. J'écoute Jean-Claude et je trouve ça complètement terrifiant comme perspective, parce que pour moi, le plaisir de lire, c'est le plaisir d'être emmené dans un endroit que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas prévu, par un auteur à qui je fais confiance pour m'emmener par la main. Je ne sais pas du tout où et je ne veux pas le savoir à l'avance. Et je fais partie des gens qui ne commencent pas par jeter un coup d'œil sur la dernière page pour acheter un bouquin. Donc, je ne souhaite pas d'un mode de sélection dans lequel je dis je veux des héros positifs ou au contraire des anti-héros, je veux que ça termine bien ou pas bien, et je veux qu'il y ait tant de proportions de cul ou pas de cul, ou de poésie ou de je sais quoi d'autre. Non, surtout pas.
Mais tu sais, Sylvie, l'avantage de ce système, c'est que ça ne sera pas du tout un système hégémonique, c'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de le faire. Tu pourras parfaitement décider de choisir un livre, je dirais, qui te surprendra. Ce sera un des critères possibles.
Ça, c'est la théorie, mais que devient un libraire, par exemple, dans une situation comme ça ?
Tu veux dire un libraire comme Amazon ou un libraire comme la librairie qui vend des livres ?
Ben, comme la librairie qui vend des livres.
Et Amazon, c'est pas un libraire, toi ?
Non, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Quand j'arrive sur Amazon, j'ai pas quelqu'un qui m'accueille en me disant bonjour, j'ai pas quelqu'un qui va m'orienter. Non.
Et moi, quand je me connecte sur Amazon, j'ai bonjour Jean-Claude Dunia. Enfin bon, vas-y, continue ton exemple.
Non, mais il peut y avoir une relation. Encore une fois, quand je dis libraire, effectivement, entendons-nous bien, c'est peut-être plutôt libraire indépendant que effectivement grande surface commerciale ou culturelle. Mais il peut y avoir une relation avec un libraire. Alors je vais faire une analogie encore, ça va être assez particulier, mais quand j'arrive chez le boucher par exemple, il va me dire: ah tiens, aujourd'hui j'ai tel morceau particulièrement intéressant qui vient de tel éleveur, etc.
Je sais que bien, ouais.
Voilà. Est-ce que le libraire aussi, il peut connaître suffisamment ses lecteurs les plus fidèles pour leur dire: tiens, il y a ça qui vient de sortir, à mon avis ça t'intéresse.
Ah mais moi je débarque à Toulouse chez ma librairie Cathy Martin qui me dit: ah tiens, j'ai reçu ça, c'est pour toi. Par contre, curieusement, je débarque à Cahors, je dis: bonjour, est-ce que vous aurez ça? Ah, on fait pas de la science-fiction, monsieur, ici c'est de la littérature. Hein? Donc je suis accueilli par un libraire, dans les mêmes cas. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce que je suis accueilli par un libraire de la bonne façon? Quel est mon rapport avec le libraire? Oui, le rapport avec le libraire va complètement changer.
Alors, est-ce que le métier de libraire a encore un avenir, alors? Prenons-le dans ce sens-là.
De libraire comme Amazon ou de libraire papier avec du stock?
De libraire papier avec du stock.
Eh bien, pose-toi la question de savoir combien tu as vu de photographes dernièrement qui font des sorties papier dans ta rue. Moi, je vais à peu près faire la plongée de sous-marine au même endroit depuis 10 ans. J'ai connu l'époque où il y avait 6 photographes qui travaillaient pour développer les pellicules et les trucs, il y en a un demi. D'accord ?
Mais ça reste quand même si c'est passage au numérique, ça reste un commerce de proximité.
Ça reste un commerce de proximité.
Est-ce que la notion de libraire de proximité n'est pas en train de disparaître ?
Probablement, ou elle est remplacée par autre chose. La question c'est, est-ce qu'elle disparaît pour être remplacée par autre chose ? Est-ce que le service qu'elle fournit a toujours de la valeur ou est-ce qu'il doit être remplacé par un autre type de service? Ce sont des questions, tu sais, on n'a pas la réponse.
Oui, non, mais
ce qu'on est en train de te dire actuellement, c'est que la vente d'un objet numérique...
Il y a des gens qui se la posent quand
oui,
même.
Oui, mais la vente d'un objet numérique équipé de métadonnées n'est pas la vente d'un objet physique. Un objet numérique, ça fonctionne à peu près comme une agence patrimoniale. Tu as un profil de client, qui est un profil que Amazon, en tant que client, possède de toi. Il y a un objet numérique qui a aussi un profil, il y a des algorithmes de mariage qui fait que monsieur l'algorithme Amazon propose à monsieur Albert Dupont le livre écrit par Georges Durand qui lui paraît correspondre à peu près à ce que cherche cette personne. C'est vraiment du mariage numérique. Ce n'est pas le libraire qui te connaît, qui t'a vendu depuis 10 ans un ensemble de choses, qui te parle. Et ce n'est pas non plus le libraire qui te connaît pas, qui t'accueille en disant: vous cherchez quoi? C'est dans tel rayon. Ou alors: on n'en a pas, monsieur, on ne fait pas ça.
Oui, on n'est pas enregistré, là, je peux dire des bêtises. Puis Jean-Claude a commencé à parler d'agence matrimoniale, donc je peux bien parler de politique ou de société. Je crois que la question dont on est en train de parler, elle dépasse largement celle du livre numérique, qu'il s'agit d'un tissu social qui est peut-être en train d'être remis en cause. On parle de commerce de proximité. C'est vrai que si on envisage un avenir complètement structuré par les réseaux et les nouvelles technologies, on n'a plus besoin de commerce de proximité, on n'a même plus besoin d'hypermarché, on passe nos commandes par Internet, on fait des rencontres sur Internet, on planifie l'ensemble de ses goûts, la communauté idéale avec laquelle on veut être en interaction, et pof, on la trouve grâce à Internet. Et il y a un moment où ça ne marche plus. Et la meilleure preuve qu'il y a un moment où ça ne marche plus, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux à venir dans des festivals, merci Marie-Charlotte, parce qu'on a besoin de se rencontrer en vrai, pas seulement entre gens qui se connaissent, mais on vient aussi ici pour faire de nouvelles rencontres, les faire en vrai, en mangeant ensemble, en se faisant des bisous sur les joues, en vrai, parce que les bisous virtuels, ça va bien un moment, mais je trouve que dans le tissu urbain, moi je suis à Lyon, je ne suis pas dans un petit village paumé, quand j'ai une soirée de libre, ce qui m'arrive de temps en temps, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller dans un endroit où il y aurait des gens qui n'avaient pas prévu spécialement d'avoir rendez-vous avec moi. Avant, c'est peut-être parce que je vieillis, mais avant, il y avait plein de bistrots, il y avait plein de restos, il y avait plein d'endroits où il y avait des petites troupes qui passaient faire du spectacle. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins et que ce n'est pas seulement moi qui me décale. Parce que j'entends aussi mes étudiants dire que finalement, oui, peut-être que pour faire des rencontres, il faudrait qu'ils s'inscrivent sur des sites de rencontres. Et Et je crois que ça ne peut pas marcher que comme ça. Et je suis persuadée, de la même manière que je crois qu'il continuera à y avoir des livres papier, je crois qu'il y aura toujours, peut-être pas, des librairies au sens où on les connaissait, mais des festivals où les auteurs viendront vraiment, où il y aura des vrais machins à feuilleter, qu'on pourra ramener dans sa vraie valise qu'on porte sur le dos dans le train, et bien je crois qu'on continuera à en avoir besoin et qu'on repartira avec les affiches des festivals en même temps que les bouquins.
On continuera à avoir mal au dos alors.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir des tas d'écrans chez soi et projeter dans des cadres virtuels des tas de trucs qui défilent sur des écrans magiques, mais c'est pas pareil que de ramener une affiche. Et nos lieux de vie et nos environnements de vie ne peuvent pas être constitués que de virtuels, n'en déplaise à Greg Egan, que j'adore.
Laurent.
Ouais, je voudrais revenir sur la librairie et je vais faire une autre analogie que celle de Jean-Claude et plutôt parler des disquaires qui ouais. Eux, ont disparu. Nous ne l'aurons pas sans le prix du livre, il n'y aurait déjà plus de librairie indépendante depuis assez longtemps. Ce qui est arrivé aux disquaires indépendants. Il reste ceci dit quelques disquaires indépendants. À Toulouse, il y a des disquaires indépendants, il y en a deux ou trois à Bordeaux. Et je pense que c'est l'avenir de la librairie. Ça va être ça, ça va être des librairies très spécialisées sur des marchés de niche avec une clientèle fidèle.
Ce qui commence dans les grandes villes.
Voilà. Et je pense que les librairies généralistes, je fais de la prospective à dessous peut-être, mais les librairies généralistes, celles dont tu parles à Cahors, j'ai bien peur que celles-là ne survivent pas. Quoi. Elles sont déjà en survie artificielle. Donc voilà. Et après, sur ce que tu
dis. Au-delà du magasin, il y a le métier de libraire aussi. Parce que, pour reprendre.
Le métier, il va se diversifier, je pense, il va se reconstruire.
Mais parce qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces commerciales, c'est pas des libraires, c'est des vendeurs. C'est pas tout à fait pareil.
Après, c'est un autre problème. Il y a des libraires dans les grandes surfaces commerciales, mais qui sont sous les dictats des commandes groupées des grands groupes. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais il y a des libraires, mais qui n'ont pas trop le droit de faire leur boulot, en quelque sorte.
Enfin, on se fait aussi beaucoup embaucher avec un BTS à Action Co, plus qu'avec vraiment un DUT du métier du livre.
Non, ça dépend. Il y a beaucoup dans les centres culturels Leclerc, il y a beaucoup de vrais libraires formés pour ça, mais qui ne peuvent pas faire leur boulot comme ils l'entendent.
On a parlé des libraires, et les bibliothécaires alors? À quoi ça va ressembler une bibliothèque?
Prends un micro, vous pouvez prendre un micro pour qu'on t'entende.
Non, parce qu'il faut enregistrer.
Viens prendre un micro.
Ah oui.
Tu l'as voulu, tu l'as.
Vas-y. Je ne voulais pas interrompre par rapport au libraire, mais aussi il y a une phase, Jean-Claude l'a dit, Laurent l'a dit, entre le moment où quelqu'un a écrit quelque chose, un roman, une nouvelle, un poème, et le moment où il est publié dans le livre actuel, hein, qui est ce co-travail avec l'éditeur. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un livre n'est pas le livre de son auteur. Il est le résultat d'un travail d'équipe. Si l'auteur a la chance de tomber sur un éditeur qui fait vraiment le travail d'éditeur, qui fait retravailler, qui ne prend pas comme ça n'importe comment. Et, alors, je sais que Jean-Claude à la réponse, parce qu'il y a aussi des plateformes de comment se relire entre soi, comment se critiquer entre soi, des choses comme ça. Mais c'est important, cette phase. Alors, le comité de lecture d'un éditeur peut être surnommé comité de censure, hein, c'est vrai aussi, hein, dans la notion d'édition. Mais il y a là une valeur ajoutée dans la chaîne actuelle de production du livre. Qui peut-être risque de manquer si tout un chacun met sur.
Mais alors, avant de répondre, non, parce que j'ai une question à vous poser. Parce que justement, dans cet état d'esprit-là, est-ce que justement, ce que propose Jean-Claude, puisqu'on parle de fabriquer et de vendre un livre numérique, est-ce que c'est pas aussi une opportunité pour un jeune auteur, par exemple, quand il veut envoyer son manuscrit à un éditeur, de pouvoir l'envoyer sous un format numérique, au lieu d'aller se taper les photocopies de ses manuscrits en tel nombre d'exemplaires?
Non, ça, il suffit qu'il envoie le fichier Word si l'éditeur l'accepte, hein, c'est clair. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui acceptent de lire sur écran, et moi-même, je le faisais à l'époque. Bon, donc, on n'a pas besoin de passer par le livre numérique. Donc, par contre, Anne soulève un problème qui est très clair, c'est que, soyons clairs, 90% des gens, 99% des gens qui ont écrit des romans ne sont pas des écrivains. Et quand je dis qu'ils ne sont pas des écrivains, on peut retravailler leur texte pour qu'ils soient proprement sans faute d'orthographe en français. Ça reste un non-roman, ça reste un livre profondément chiant que personne n'a envie de lire au-delà de 10 pages. On n'y peut rien, on ne sait pas pourquoi. Mais ça c'est vrai. Et personne n'est capable de transformer un non-écrivain en la personne. On ne sait pas ce qui se passe. On peut, quand on est écrivain et qu'on pense qu'on est mauvais écrivain, devenir meilleur. Mais un non-écrivain, ça ne devient pas un écrivain, sauf par accident, et on ne sait pas pourquoi. Et ça, soyons clairs, le rôle des comités de lecture, le rôle des éditeurs, ce n'est pas seulement de faire retravailler le bouquin sur 100 qu'ils auront choisi, c'est d'éliminer les 99 précédents. Et d'empêcher que ces 99 précédents arrivent sur les tables des libraires. Parce que ceux-là, si vous essayez de les lire, ben, c'est vraiment une catastrophe. Vous avez le même sentiment que quand vous lisez des blogs, vous prenez n'importe quel marchand de blogs, vous essayez de lire des blogs au hasard, et vous avez à peu près la qualité des livres que reçoivent les éditeurs, au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? De temps en temps, vous en trouvez un, vous vous dites, tiens, cette personne est intéressante. Mais 99 fois sur 100, vous vous êtes dit, mais ah bon ? Mais de quoi il parle ? C'est quoi ça ? C'est ça ce rôle d'éditeur qui est vraiment fondamental. Et en plus, c'est aussi quelque chose, Stéphane Marsan en parlait hier, de dire, moi, ce livre, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le porte ? Comment je l'amène jusqu'à l'endroit où il aura le plus de chances de rencontrer ses lecteurs ? Parce qu'encore une fois, nous fournissons de la lecture. Je ne suis pas là pour fabriquer des livres, je suis là pour fabriquer le moment de lecture que vous allez vivre. Quelle que soit la manière dont vous lirez, même si vous m'entendez au point de vue texte, parce que c'est pareil pour moi, vous voyez ce que je veux dire ? Je passe une lecture. Et donc, on est obligé, à un moment donné, de faire abstraction de toute la chaîne du livre pour dire, ok, j'ai des images dans la tête, je le traduis en mots, ces mots arrivent chez vous et se transforment dans votre tête à vous en image. Et le chemin entre les deux, il en existe plein, qui passe par des objets physiques, qui passe par des objets numériques, qui passe par une distribution d'un type ou d'un autre, qui passe par un délai immédiat ou par un délai fin, qui passe par une bibliothèque gratuite ou qui passe par un truc payant, mais dans tous les cas, on a des images de ma tête traduites en mots et des mots qui traduisent des images dans votre tête.
On va être obligé de s'arrêter là, vous l'aurez compris, c'est un débat qui risque encore de nous occuper pendant quelques temps, hein, même si le mouvement, comme on le disait, est en marche véritablement. Moi, je vous invite pendant la journée encore à aller, pourquoi pas, continuer à discuter avec Jean-Claude, avec Sylvie, avec Laurent et avec d'autres sur ce sujet-là, si vous avez d'autres questions à leur poser qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder. Et puis, après, faites-vous votre idée vous-même.
Hein, on a peut-être le temps pour une question. Est-ce que quelqu'un a une question encore dans le...
Il y a la chef, elle a dit
non.
Non,
on n'a plus le... Si. C'est toi qui dois aller manger le carton. Allez.
Bon. Bonjour. Ça y est, nous ne sommes plus modérés, nous sommes totalement livrés nous-mêmes. Il reste 5 minutes totalement rock'n'roll. Marie-Charles.
Voilà, non, c'est parce que, en fait, Christophe doit partir déjeuner. Il fait partie du deuxième service, après il a une autre table ronde. Voilà, y a-t-il encore des questions ?
Moi j'en avais une.
Oui. Il faudrait qu'on vous fasse un micro.
On parle des bibliothécaires, ok, ça c'est une bonne question. Ah, tiens, t'as un micro comme ça, là, c'est sûr.
Il n'y a pas un micro.
Il vaut mieux passer celui-là.
Ah,
voilà.
Je la pose pour ma fin, parce que les bibliothécaires ne l'ont pas posé la question, donc l'avenir des bibliothécaires.
Alors, je vais vous répondre, parce que je suis bibliothécaire, mais je mange un carambar, ça va être compliqué.
Si les bibliothèques sont toujours des lieux où on prête pendant une durée provisoire des ouvrages, technologiquement on peut tout faire, hein, on peut très bien imaginer des systèmes de mise à disposition d'ouvrages numériques pendant une certaine durée. On pourrait reconstruire des prestations comparables, mais de toute façon c'est évident que c'est une période où on remet tout à plat et où on se demande de quelle intervention de médiation on a besoin, et c'est peut-être justement d'une intervention de conseil et d'orientation qu'on a besoin. Et moi je me demande si les nouveaux prescripteurs dont on parlait avec Laurent et qu'on a évoqué sous plusieurs aspects, c'est pas les bibliothécaires qui devraient devenir ces médiateurs en se spécialisant sur des genres, des thématiques. Il y en a déjà qui le font sur des domaines scientifiques. Les bibliothécaires construisent des portails qui sont des outils de sélection et d'orientation. Moi, je crois beaucoup à cette dimension du métier de bibliothécaire qui existe déjà et qui pourrait se développer et trouver de nouvelles formes. Il y en a sûrement d'autres à trouver, mais au moins celle-là.
Alors, tu as raison, Sylvie. La question aujourd'hui des bibliothèques, elle est double et ça rejoint je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire, mais c'est toi qui disais que les gens ont besoin de se rencontrer. Donc en fait, on a un double défi. Premier défi, trouver des plateformes numériques et pouvoir fournir un maximum de documents aux gens qui ne souhaitent pas se déplacer, parce que notre boulot, c'est quand même de rendre un service public et pas de punir les gens en disant « si vous ne venez pas, vous n'aurez rien », etc. Donc, pour la musique, les choses sont en train de se mettre en place depuis quelques années, il y a des plateformes. Et pour les livres, ça commence. Il y avait un débat, une table ronde hier là-dessus avec Immatériel. Des plateformes vont se mettre en place, pour les bibliothécaires. Ensuite, effectivement, il y a à alimenter avec de la critique, avec de la métadonnée, avec des biographies en ligne, des validations de sites, comme on le fait déjà, etc. Et puis l'autre défi. C'est d'avoir à proposer aux gens des services sur place parce que ça marche bien. Je regarde là ma collègue Michel qui gère l'Université pour tous à la bibliothèque. À l'Université pour tous, sur nos cycles de cours, nous faisons le plein de la salle. C'est-à-dire que ça fonctionne très très bien. Ce sont les étudiants qui décident des thèmes de l'année d'après, etc. Voilà. Et donc, développer des services d'avocats, développer des services de renseignements divers et variés, du boulanger du coin, voilà. Mais des espaces de rencontre. Je pense qu'on a ce double défi. Aller maintenir les livres, parce que je suis persuadée effectivement qu'on gardera du papier, au moins pour les générations qui auront connu... qui n'auront connu que le papier, et puis en faire des lieux de savoir, des cours, des cours de langue, des choses comme ça.
Il y a quand même un problème qu'il faut aborder de front, c'est que quand on parle de numérique, la notion de prêt n'a rien à voir avec eux, mais totalement idiote. En numérique, un objet numérique, vous ne le prêtez pas. Ça n'existe pas. Un prêt, quand je vous prête un livre, ça veut dire que je n'ai plus que c'est vous qui l'avez. Si je vous prête un fichier numérique, un, je l'ai toujours. Deux, vous l'avez aussi, c'est le même, et vous êtes capable de le prêter, de le dupliquer. Prêter, c'est dupliquer, c'est copier. D'accord ? Et ça, on peut essayer de mettre en place toutes les techniques de protection, etc. Vous avez toujours des gens qui vont les traquer. C'est mon métier de le faire, donc je sais que c'est possible, ça se fait très simplement. Donc il y a des copies. Actuellement, le problème, c'est que le numérique est copiable. C'est sa plus grande qualité, c'est aussi son plus grand danger. La bibliothèque, ça veut dire que si j'emprunte un livre à la bibliothèque, je ne le rends pas. Il sera toujours à moi. Si je prête un livre numérique à un copain, le copain, il en a un, et il le prêtera à son copain. Le problème qu'on a, il est là. La question est de savoir, est-ce qu'il existera simultanément un prix pour les objets numériques qui seront achetés et une gratuité pour les mêmes objets numériques qui seront prêtés? On ne le sait pas. Et on ne sait pas comment ça serait possible. Parce que si j'ai le choix entre acheter le livre sur Amazon à 10 euros ou l'emprunter à la bibliothèque à 0 euros, curieusement, je vais choisir le deuxième cas. C'est le même livre. C'est le même objet. Et je l'aurai de la même façon dans les deux cas. Donc on a un problème. On ne sait pas le résoudre. On n'a pas de modèle économique pour le faire.
Tu ne crois pas, Jean-Claude, que les éditeurs vont empêcher justement le prêt de livres numériques par les bibliothèques? En tout cas, vont tout faire pour
si
faire
on emprunte, si on empêche le prêt numérique par les bibliothèques, il n'y a plus de bibliothèque numérique. Si le prêt n'est pas possible, c'est pas possible. Si Amazon crée sa bibliothèque numérique en disant « Vous, auteur, vous autorisez le prêt », et à ce moment-là, le prêt, ça peut être une technique de type abonnement, ou ça peut être un prêt gratuit, et à ce moment-là, vous êtes quand même rémunéré, ça veut dire qu'il se substitue à la notion même de bibliothèque numérique. Le gros problème, encore une fois, c'est de trouver un modèle économique permettant aux gens de la chaîne du livre, en particulier aux artistes, de vivre. Parce que si, dès que votre livre existe, il est prêté gratuitement à tout le monde, ben vous, écrivain, vous mourrez tout simplement de faim.
C'est le problème de notre analogie, mais voilà, les revenus musicaux se sont emportés sur les concerts, ce qui n'est pas possible pour la littérature.
Ben, y a le droit de prêt. Bien sûr,
on
paye le droit de prêt sur tous les livres qu'on prête. On paiera le droit de prêt sur les livres numériques.
C'est pas très bon pour le spectacle vivant. Hein.
Oui, attends, il y a une différence énorme entre la musique et le livre, et ça, vraiment, il faut que vous compreniez. En musique, il y a 90% des revenus sont des revenus d'exploitation. Quand j'écris une chanson, je fais aussi des textes de chansons. Je gagne de l'argent parce que la chanson elle est jouée, parce qu'elle passe à la télé, parce qu'elle est dans le jukebox, parce que tel magasin la passe en fond sonore pendant qu'ils font des trucs de coiffure.
Jukebox, c'est ringard.
Jukebox, c'est ringard, mais ça existe toujours, je suis désolé. Ça passe dans les radios type Deezer et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça s'appelle encore des jukebox dans la parce que c'est utilisé comme sonnerie téléphonique. C'est de l'exploitation. Je connais très très peu d'écrivains qui gagnent leur vie en allant lire leurs textes ou en faisant des concerts de lecture de leurs textes, ou en ayant des boutiques qui passent de temps en temps en fond sonore des écrivains qui restent leur truc, ça n'existe pas. Le seul gain que nous avons, c'est parce qu'on vend un objet physique, qui est un livre ou un fichier, d'accord ? Donc on n'a pas du tout le modèle de musique exploitable au point de vue texte. Le problème que l'on a actuellement au point de vue texte, c'est que c'est librement copiable, même avec des DRM, n'importe quel imbécile venu sait les enlever et les dupliquer. La question, c'est quel est le modèle qui va fonctionner avec ça. Et la librairie, là, c'est déjà quelque chose qui pose un problème, mais alors la bibliothèque, on se gratte vraiment la tête. Or, on a besoin des bibliothèques en tant que prescripteurs, mais comment peut-on fonctionner? Et on ne peut même pas dire, on t'autorise le prêt pendant 3 mois, parce que les gens qui pendant 3 mois auront emprunté les livres, les garderont pour le reste de leur vie. Donc, au bout de 3 mois, le livre ne va pas disparaître. Il n'y a pas un Big Brother qui, chaque fois qu'on allume la truc, dit « Ah, ça c'est trop vieux, je te l'enlève ».
Ah, ils sont chronodégradables.
Hein. Ils ne sont pas chronodégradables.
Si, ils sont chronodégradables. Nous, ce qu'on prête est chronodégradable.
Il y a des livres chronodégradables. J'ai vu aussi des CD, des DVD chronodégradables qui étaient recouverts d'un film qui les abîmait. Mais croyez-moi, en tant qu'informaticien, un cracking de machin chronodégradable, ça me prendrait quoi? Un gros week-end?
Oui. Mais tu n'es pas un public représentatif.
Je ne suis pas un public représentatif, mais si je sais le faire, si je sais le faire, je mettrai un tutoriel pour expliquer à mes petits camarades comment le faire et tout le monde le fera. D'accord? Faut pas oublier ça. En numérique, il y a des gens qui expliquent comment craquer. Et qui l'expliquent très clairement, très simplement, en mettant les outils à disposition. Et qui le font au nom d'une certaine idée, d'une certaine philosophie, qui est tout à fait respectable, hein, toute philosophie respectable. Et ils le font. Alors après, c'est vrai qu'il y a des DVD physiques qui sont biodégradables parce qu'ils sont recouverts d'une étiquette qui les détruit au bout d'un certain temps. Ça existe. C'est idiot, mais ça existe. Mais pour un livre numérique, vous ne pouvez pas. Pour n'importe quel fichier numérique, vous ne pouvez pas. D'accord.
Je ne vais pas casser l'ambiance.
Je suis désolé, je ne suis pas en train de casser l'ambiance, mais le numérique a changé le rapport au monde. Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions?
D'autres questions?
Ça, c'est la faute de Jean-Claude.
Tout est de ma faute.
Et là...
Et le repassage, si le tutoriel vous intéresse, donc il est sur mon site, qui s'appelle www.duniac.fr. Il y a une première page avec un petit machin qui s'appelle e-book qui clignote, vous appuyez là-dessus. Vous arrivez sur une page dans laquelle les tutoriels expliquant comment on fait un livre numérique à partir de votre fichier des traitements de texte. Voilà. Ils sont là, ils sont gratuits, vous en faites ce que vous voulez. Mais encore une fois, ça ne vous donnera pas de légitimité ni de talent. Par contre, si vous êtes un auteur qui a déjà publié son texte, et bien à ce moment-là, le transférer sur un support numérique pour le vendre vous-même, c'est tout à fait faisable.
Ben écoutez, merci chers invités, merci Laurent Kessy, merci Sylvie Lenné, merci Jean-Claude Duniac. Nous irons faire nos livres numériques sur ton tutoriel. En tout cas, c'est bien et c'est généreux de l'avoir mis en ligne. Je vous souhaite une bonne suite de festivals. Je pense que nous allons clore ce débat, cette table ronde. Merci à vous.